Bonjour à tous. Reconstruire, c'est donc le mot du jour. Notre-Dame de Paris, d'abord notre pays aussi. Un vaste chantier s'annonce pour redonner à la cathédrale ravagée par les flammes son allure et le président veut que ça aille vite, très vite.
Emmanuel Macron, dont on attend toujours les mesures pour sortir de la crise des gilets jaunes, et là aussi, le chantier est vaste.
Le chef de l'État ne s'est pas encore exprimé officiellement sur sa conclusion du grand débat, mais on en sait un peu plus sur ce qu'il comptait nous dire, vous l'entendrez.
Et puis à suivre aussi dans ce journal, l'élection présidentielle en Indonésie. Le sortant Joko Widodo est en tête des sondages.
Issu d'un milieu modeste, simple et proche du peuple, il cultive le consensus. Reportage à Jakarta dans une dizaine de minutes. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, Notre-Dame, faut-il reconstruire la cathédrale à l'identique ? On posera la question à Philippe Plagneux. Il est professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge dans quelques minutes.
Au pied de l'autel, un gigantesque tas de gravats, des poutres calcinées et ce trou béant dans la charpente impressionnant vu du ciel. Notre-Dame de Paris défigurée par un violent incendie lundi soir. L'étendue du chantier à venir paraît immense, mais faisable et rapidement pour le président de la République, Emmanuel Macron.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais, en quelque sorte, l'espèce de fausse impatience qui voudrait que il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date. Comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes.
Et reconstruire Notre-Dame, d'abord avec cet objectif fixé par le président. 5 ans, c'est court, cela paraît pour le moins ambitieux. Surtout, Steven Gouayer, que ces travaux soulèvent beaucoup de questions.
Et la première, c'est comment reconstruire la charpente à l'identique réclamerait une très très grosse logistique, puisque ce qui est parti en fumée ce lundi soir était tout simplement surnommé la forêt. Et ce n'est pas forcément une exagération pour cette structure de 110 mètres de long sur 13 mètres de large, qui avait nécessité plus de 20 hectares de chêne. Autant dire que le doute plane sur le fait de pouvoir acheminer la quantité nécessaire de matériaux dans des délais aussi courts, à moins que le choix ne soit porté sur une charpente renouvelée en béton armé, par exemple, à la manière de ce qui avait été réalisé pour la cathédrale de Reims au sortir de la Première Guerre mondiale. Au-delà du matériel et vu le chantier gargantuesque qui s'annonce, c'est aussi la question du nombre d'artisans mobilisables qui se pose. Interrogé par l'agence France Presse hier soir, le secrétaire général des Compagnons du Devoir, Jean-Claude Bélanger, expliquait que cette reconstruction pourrait être confrontée à un manque de main-d'œuvre en France en tailleurs de pierre, charpentiers et couvreurs. La question des délais reste également centrale. Si Emmanuel Macron fixe l'objectif de 5 ans du côté des professionnels, des représentants du bâtiment ou spécialistes des monuments historiques, on parle pour l'instant davantage de 10 à 15 ans minimum. À noter que ce délai sera aussi tributaire des sommes à disposition pour redonner toute sa splendeur à l'édifice.
Et les promesses de dons des grandes fortunes françaises tournent déjà autour des 800 millions d'euros. Comment financer la reconstruction de Notre-Dame ? C'est un article à lire sur France culture.fr. Il y a ce qu'il faut reconstruire, il y a aussi ce qui a été sauvé des flammes, la couronne d'épines attribuée au Christ, la tunique de Saint-Louis, plusieurs œuvres d'art. Qu'en est-il du grand orgue de Notre-Dame ? Théo Conscience a pu joindre ceux qui entretiennent et font chanter cet incroyable instrument.
Le grand orgue, pour l'instant, est non pas intact, mais préservé et sauvable.
Philippe Lefebvre est l'un des 3 organistes titulaires de Notre-Dame.
C'est ça qui nous met un peu d'espoir.
Depuis 35 ans, il joue de cet instrument dont certaines parties datent du 15e siècle.
Il fait partie effectivement de ces orgues qui cumulent des siècles d'histoire. Et cette histoire, c'est à la fois du matériel sonore, et le plus important, ce sont les tuyaux. C'est aussi son architecture, c'est-à-dire sa boiserie, sa menuiserie, sa charpente.
Et malgré de multiples rénovations au fil des ans, le grand orgue a su conserver sa particularité.
C'est une sorte d'alchimie entre l'instrument et le monument. On disait toujours que quelque part, il fait chanter les pierres de Notre-Dame. C'est vous dire le soin qui est porté à ces instruments de musique exceptionnels.
Cet entretien quotidien est réalisé par un facteur d'orgue. Pendant presque 50 ans, Bertrand Catiau a rempli ce rôle à Notre-Dame de Paris. Il est soulagé que l'instrument n'ait pas brûlé, mais préfère se montrer prudent sur son état.
On est loin de savoir exactement quels sont les dommages qu'aura subi l'instrument, parce qu'un orgue est assez sensible aux différences de température et d'hygrométrie. Il va être prévu d'une visite beaucoup plus approfondie, avec ouverture de tous les organes de l'instrument pour se rendre compte, par exemple, des infiltrations d'eau qu'on peut ne pas voir et qui pourraient être très dommageables.
Pour l'instant, l'orgue est recouvert de poussière et de gravats. Il a pris l'eau mais n'a pas été inondé et ses tubes ne semblent pas s'être déformés avec la chaleur. Il sera examiné en profondeur mardi avant d'être déplacé dans un lieu sûr pour être restauré.
Théo Conscience sur France Culture. Par ailleurs, l'enquête se poursuit. La piste accidentelle reste privilégiée. Près de 30 témoins employés du chantier de la cathédrale ou en charge de la sécurité du monument ont déjà été entendus hier.
7h06 sur France Culture. La suite des matins avec le journal de Rosalie Lafarge. La reconstruction de Notre-Dame est aussi au programme du Conseil des ministres ce matin.
Il y sera entièrement consacré et ce n'était évidemment pas prévu en début de semaine. Au départ, ce Conseil des ministres devait permettre de revenir sur les mesures de sortie de crise du grand débat. Elles n'ont finalement, pour les raisons qu'on connaît, pas été annoncées. Mais il y a eu des fuites hier, Anne Fauquemberg.
Sur la fiscalité et le pouvoir d'achat, pas de surprise, les petites retraites inférieures à 2000 euros par mois devraient être dès l'an prochain réindexées sur l'inflation. Les classes moyennes devraient aussi bénéficier de baisses d'impôts, a priori en supprimant certaines niches fiscales. Quant à l'ISF, pas question de le rétablir dans l'immédiat, même si le chef de l'État est ouvert à une évaluation objective des effets de sa suppression. Sur le plan institutionnel, les mesures sont un petit peu plus offensives. Réduction du nombre de parlementaires, introduction de la proportionnelle se dessine. Les règles du référendum d'initiative partagée, le RIP, pourraient être assouplies. Quant au RIC, demandé par les Gilets jaunes, Emmanuel Macron l'autoriserait pour des sujets locaux. Le chef de l'État qui appelle aussi à un changement de la formation des élites, avec une mesure hautement symbolique, la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Au niveau des services publics, plus de fermetures d'hôpitaux ni d'écoles. Jusqu'à la fin du quinquennat, des classes de 24 élèves maximum sont envisagées. Alors l'Élysée ne confirme ni ne commente, mais dans le contexte de l'incendie de Notre-Dame, le politologue Olivier Roucan n'est pas étonné par toutes ces fuites.
L'Élysée ne pouvait plus préempter la fabrication de l'événement et devait s'adapter. Donc c'est un bon moyen de laisser filtrer des propositions, de laisser passer, comme on dit chez les communicants, la séquence, pour reprendre après sous une autre forme. Et finalement, ça permet aussi au chef de l'État et à l'Élysée de lancer quelques ballons d'essai pendant un laps de temps qui, de toute façon, sera assez court.
Emmanuel Macron, qui a en effet précisé hier soir qu'il reviendrait ces prochains jours s'expliquer devant les Français.
Anne Fauquemberg du service politique de France Culture. Dans l'actualité ce matin aussi, la parole est à la défense au procès d'Abdelkader Merah et Feta Malki, jugé en appel pour association de malfaiteurs et complicité après les attentats de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Hier, Florence Turm, l'accusation a requis la prison à perpétuité à l'encontre du principal accusé.
4 heures de réquisitoire et 2 avocats généraux réunis par le même objectif, démontrer la complicité d'Abdelkader Merah dans les assassinats commis par son frère, complicité écartée lors du premier procès. Non, Abdelkader Merah n'est pas dans le box parce que son frère est mort, lance Rémi Crosson du Cormier. Non, Abdelkader Merah n'est pas un substitut de fortune, il n'est pas l'auteur principal, mais il en est le complice. Complicité qui passe pour l'accusation non seulement par la présence reconnue d'Abdelkader Merah lors du vol du scooter et de l'achat du blouson de moto. Ses déclarations en garde à vue, glisse l'un des deux magistrats, sont celles d'un joueur d'échecs qui sait qu'on va venir vers lui. Mais aussi par la connexion internet sur l'annonce du Bon Coin déposée par Imad Ibn Ziaten, première victime de Mohamed Merah. Connexion dont l'auteur n'est autre qu'Abdelkader Merah, assure Frédéric Bernardo. Complicité pour aide et assistance, résume le magistrat, mais aussi complicité par provocation. On a un vrai salafiste, poursuit et un voyou de banlieue multicarte mais qui ne pouvait pas ignorer les projets terroristes. Dans ce réquisitoire centré sur Abdelkader Merah, on aurait presque oublié le deuxième homme, celui qui a fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah. Les affaires de terrorisme regorgent de personnalités comme lui, estiment les deux magistrats, ce qui justifierait à leurs yeux une peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle et la perpétuité pour Abdelkader Merah. Dans leur box, les accusés n'ont pas bronché.
Le verdict est attendu demain. Florence Turme. Au moins 4 personnes ont été tuées cette nuit à Tripoli. Plusieurs roquettes se sont abattues sur des quartiers de la capitale libyenne visées par une offensive de l'armée du maréchal Haftar depuis près de 2 semaines. Des jungles de Bornéo à la mégalopole de Jakarta, l'Indonésie choisit son président. 192 millions d'électeurs appelés aux urnes et le sortant Joko Widodo par favori. Peut-être Joël Bronner grâce à son style simple et proche du peuple.
Face au même choix électoral que lors de la présidentielle précédente, Fiona Dila ne tergiverse pas. À l'entrée du métro flambant neuf de la capitale indonésienne, cet employé de banque de 30 ans souhaite voir le président sortant accomplir un second mandat.
Je ne suis pas le genre d'électrice qui change constamment d'avis. Je me suis forgé une opinion il y a 5 ans et aujourd'hui cette opinion reste la même. Je vais donc de nouveau voter pour Joko Widodo. Au cours de son premier mandat, ces 5 dernières années, j'ai pu observer les résultats de sa politique. Par exemple, l'arrivée de ce métro, mais aussi ses succès dans la lutte contre la corruption. Pardon d'exprimer comme ça, mais lui et son équipe ne nous racontent pas de conneries.
Joko Widodo, dont cette électrice dit apprécier tout particulièrement l'humilité, fait la course en tête dans les sondages. D'origine modeste, l'actuel président jouit en effet d'une image positive auprès d'une majorité de l'électorat populaire. La lutte contre les inégalités et le développement d'infrastructures sont au cœur de son projet. Bien qu'il ne soit pas issu du sérail politique, Joko Widodo a gravi les échelons à toute vitesse. Maire de la ville javanaise de Solo à partir de 2005, il devient gouverneur de la capitale Jakarta en 2012, avant d'être élu président seulement 2 ans plus tard. Une position qu'il entend bien conserver pour un quinquennat supplémentaire.
France Culture à Jakarta avec Joël Bronner. Des antibiotiques, des groupes électrogènes, des seringues, une première cargaison d'aide humanitaire de la Croix-Rouge entre au Venezuela. Elle doit permettre aux hôpitaux de faire face aux nombreuses pénuries engendrées par le bras de fer entre le président Nicolas Maduro et son opposant Juan Guaido. Pas mal de nuages ce matin en France, mais au fil de la journée, le soleil se fait de la place et les températures grimpent. À la mi-journée, il fera entre 12 et 19 degrés sur la moitié nord, de 16 à 23 côté sud.